À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le monde aujourd'hui. Eric Manirakis à la présentation de cette édition du mardi 21 décembre 2021. Voici d'abord le sommaire. Goodluck Jonathan, médiateur de la CDAO, est au Mali pour des entretiens avec la junte militaire au pouvoir. Au Sénégal, un député a été écroué pour association de malfaiteurs. Un conflit communautaire dans le centre du Nigeria fait au moins 8 personnes tuées depuis vendredi. Au moins 160 migrants morts noyés au large de la Libye en une semaine, selon l'OIM. Washington annonce 580 millions de dollars d'aide supplémentaire à des organisations internationales pour faire face à Omicron. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Le médiateur de la CDAO, Goodluck Jonathan, accompagné de Jean-Claude Cassibrou, le président de la commission de l'institution sous-régionale, est arrivé aujourd'hui au Mali pour rencontrer les autorités de la transition. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la mise en application des dernières recommandations de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Afrique de l'Ouest sur le Mali. L'armée française annonce avoir tué au Niger un des auteurs de l'assassinat de 6 humanitaires français, de leur guide et de leur chauffeur nigérien en août 2020 dans le parc de Kouré, revendiqué par le groupe État islamique au Sahel, a annoncé mardi l'état-major français. Soumana Bourra dirigeait un groupe de plusieurs dizaines de combattants dans l'ouest du Niger, selon l'armée française. Il a été éliminé par un tir de drone alors qu'il était seul sur une moto. Une unité française a été envoyée au sol pour fouiller la zone et identifier formellement le djihadiste, a détaillé l'état-major dans un communiqué en précisant que cette opération avait été menée en étroite coordination avec les autorités nigériennes. Un député sénégalais a été inculpé et écroué aujourd'hui à Dakar pour notamment escroquerie et association de malfaiteurs dans une affaire de trafic présumé de passeports diplomatiques. De notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
Les parlementaires Elhadji Mamoudou Sall et Boubacar Guilembo Biaï sont poursuivis pour association de malfaiteurs, escroquerie, blanchiment de capitaux, faux et usage de faux sur des documents administratifs et faux en écriture publique authentifiée. C'est en septembre que l'affaire avait éclaté suite à l'arrestation de leurs complices et cerveaux de l'opération chez qui beaucoup d'éléments compromettants ont été découverts. L'enquête avait ainsi révélé que les deux députés avaient scellé plusieurs mariages fictifs pour permettre à des tiers de bénéficier de passeports diplomatiques. Ils se faisaient également passer pour les parents d'autres à travers de fausses pièces d'état civil. Suite à cela, l'Assemblée nationale avait voté la levée de l'immunité parlementaire des deux députés pour permettre aux enquêteurs de faire correctement leur travail et à la justice de parvenir à ce mandat de dépôt. Cependant, le mal semble plus profond parce qu'au-delà des deux députés, deux activistes musiciens très connus ont également été cités dans une affaire similaire, tout comme deux gendarmes de la présidence de la République récemment mis aux arrêts, toujours dans le cadre de trafic présumé de passeports diplomatiques. Seydina Abagay à Dakar pour VOA Afrique.
Au moins 8 personnes ont été tuées depuis vendredi dernier dans le centre du Nigeria, selon la police, lors d'attaques menées par des éleveurs peuls en représailles à la mort d'un des leurs contre des villages d'agriculteurs tives. Le point avec Jacques Aristide.
Un représentant de la communauté tive a de son côté fait état d'un bilan de moins 20 morts et de nombreux disparus. Peter Aemba indique qu'au moins 12 villages ont été attaqués. Entre vendredi et dimanche, dans l'état de Nassarawa, des peuls armés ont attaqué des villages majoritairement habités par des agriculteurs du groupe communautaire Tive. Les peuls ont agi après la mort d'un des leurs, tué selon eux par des fermiers Tive, d'après Ramhan Nansel, le porte-parole de la police de Nassarawa. Des militaires et des policiers ont été déployés dans la région pour ramener le calme et arrêter les assaillants. Des affrontements meurtriers entre éleveurs nomades et agriculteurs sédentaires liés à l'accès à la terre et aux ressources comme l'eau sont fréquents dans le centre du Nigeria. Ces conflits ont pris une tournure communautaire et religieuse ces dernières années, la plupart des éleveurs étant des peuls musulmans et les agriculteurs majoritairement chrétiens.
Un deuxième Soudanais a été tué par balle lors de manifestations contre le pouvoir militaire dimanche au Soudan, ont déclaré mardi des médecins. Mardi, un syndicat de médecins pro-démocratie a annoncé la mort d'une balle dans la tête de Mohamed Ali, 28 ans, dans une ville au nord de Khartoum. Un premier décès avait été annoncé lundi. Au moins 47 personnes sont mortes depuis le putsch, a indiqué le syndicat. L'armée mozambicaine, appuyée par des soldats de forces africaines, a attaqué une base rebelle et tué des insurgés dans le nord du Mozambique, a indiqué le ministère de la Défense. Depuis juillet, plus de 3000 soldats africains, notamment sud-africains et rwandais, et des instructeurs européens et américains appuient et forment l'armée mozambicaine débordée par les insurgés. La province à majorité musulmane du Cabo Delgado, riche en gaz, est le théâtre depuis 2017 d'une insurrection djihadiste. L'ancien président sud-africain Jacob Zuma a encore gagné un peu de temps. Il ne sera pas réincarcéré avant qu'une cour d'appel ait entendu les arguments de ses avocats contestant une décision récente de le renvoyer en prison, a décidé mardi un tribunal de Pretoria. Le 15 décembre, un juge avait ordonné le retour en prison de M. Zuma, invalidant la libération conditionnelle qui lui avait été accordée pour raisons médicales en septembre. Au moins 160 migrants sont morts noyés au large de la Libye après le naufrage de leur embarcation au cours de la semaine dernière, a annoncé mardi l'Organisation internationale pour les migrations, le point avec John Lyndon.
Au cours de la semaine dernière, au moins 160 personnes ont perdu la vie en Méditerranée centrale, au large de la Libye, a indiqué sur Twitter sa femme Zélie, porte-parole de l'OIM à Genève. Près de 1500 migrants se sont noyés sur cette route cette année, a-t-elle déploré. Entre le 12 et le 18 décembre, 466 migrants ont été interceptés en mer et renvoyés en Libye, a par ailleurs fait savoir l'OIM. Majoritairement issus de pays d'Afrique subsaharienne, ces candidats à l'immigration clandestine vers l'Europe sont souvent victimes de trafiquants quand ils ne meurent pas en tentant la traversée. Les autorités libyennes avaient lancé début octobre un raid anti-migrants à Tripoli. Au moins 5000 personnes ont été arrêtées lors de cette opération. Quelques jours plus tard, environ 2000 migrants se sont évadés d'un centre et 6 d'entre eux ont été tués par balle par des gardes libyens, selon l'OIM. La Libye fait face depuis plusieurs mois à de multiples critiques pour les mauvais traitements infligés aux migrants.
Le secrétaire d'État malgache à la gendarmerie, le général Serge Guélé, a nagé près de 12 heures pour rejoindre le rivage après que l'hélicoptère qui le transportait s'est écrasé en mer. Outre le ministre, cet hélicoptère transportait 3 gendarmes. L'un d'eux, éjecté en même temps que M. Guélé, a lui aussi survécu, tandis que les 2 autres sont portés disparus.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Omicron, le nouveau variant du coronavirus, se propage à un rythme qui inquiète les autorités gouvernementales et sanitaires à travers le monde. Le président américain Joe Biden prononce un discours aujourd'hui, le point avec Abdulrahman Dia.
Aux États-Unis, Omicron est à l'origine de 73% des nouvelles infections, créant une nouvelle vague d'hospitalisation. Le Pentagone a envoyé du personnel militaire dans les hôpitaux dans des États comme l'Ohio et le Michigan. L'administration Biden n'envisage pas de confiner les États-Unis, mais les autorités vont distribuer gratuitement 500 millions de tests et augmenter la capacité de vaccination selon la Maison-Blanche. Les États-Unis vont par ailleurs donner plus d'un demi-milliard de dollars d'aides supplémentaires à des organisations internationales pour lutter contre le Covid-19. En Allemagne, le nouveau chancelier Olaf Scholz annoncera des restrictions, notamment pour le nouvel an, mais le confinement n'est pas non plus à l'ordre du jour. La France n'exclut pas d'aller au-delà des mesures de restriction en vigueur en cas de reprise très forte de l'épidémie liée au variant Omicron, notamment en instaurant un pass sanitaire en entreprise, mais pour l'heure, elle mise avant tout sur la vaccination. De son côté, Israël interdit les voyages vers les États-Unis et plusieurs autres pays.
L'OMS a homologué mardi le vaccin de la firme américaine Novavax contre le coronavirus à la technologie plus classique et différente des vaccins déjà largement utilisés dans l'Union européenne. Dans un communiqué, l'OMS a indiqué qu'il s'agit du 10e vaccin anti-Covid homologué en urgence. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Dans l'actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco signée Mohamedou Oumfa.
Le groupe Bolloré a reçu une offre de 5,7 milliards d'euros de l'armateur italo-suisse MSC pour l'acquisition de Bolloré Africa Logistics, regroupant l'ensemble de ses activités de transport et logistique en Afrique. Bolloré affirme dans un communiqué avoir accordé une exclusivité au groupe MSC jusqu'au 31 mars 2022 pour lui remettre, le cas échéant, une promesse d'achat. La société minière African Rainbow Minerals Limited, basée en Afrique du Sud, est contrôlée par le milliardaire Patrice Motsepe, qui est aussi le président de la CAF, a annoncé lundi 20 décembre avoir acheté la mine de platine Bokoni d'Anglo American Platinum Limited pour un montant de 221 millions de dollars. L'accord, qui sera finalisé d'ici 2022, sera soumis à l'approbation réglementaire des autorités compétentes. Airbus a reçu une plainte officielle déposée devant les tribunaux anglais par Qatar Airways relative au litige sur la dégradation de la surface et de la peinture de certains de ses appareils. Dans un communiqué, le constructeur aéronautique indique qu'il est en train d'analyser le contenu de cette plainte et ajoute avoir l'intention de se défendre.
Sans tarder, nous passons à votre page sport avec Élisée Onkpatine. Bonsoir Élisée.
Oui, bonsoir à tous. Au Cameroun depuis hier, le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, rencontrera le président du pays, Paul Biya. Ensemble, ils parleront de l'organisation de la CAN. On le rappelle, cette Coupe d'Afrique des Nations menacée par la pandémie. Mais avant, le Sud-Africain a visité le stade d'Olembe, censé accueillir le match d'ouverture et la finale. Il a ensuite donné rendez-vous le 9 janvier pour le coup d'envoi de la compétition. Mais c'est bien la rencontre prévue avec le président camerounais qui va se le sort de la compétition. Présent aux côtés de Motsepe depuis son arrivée, Samuel Eto, récemment élu président de la Fédération camerounaise de football, préoccupé par cette situation, s'est lâché à l'occasion d'une interview accordée à nos confrères de Canal+. On l'écoute.
Je ne veux pas pour qu'elle n'aura pas lieu. Je ne souhaite même pas que ce soit responsable cette façon de faire ou de vouloir faire. La fédération, en tout cas, que je représente, défendra avec la dernière énergie la tenue de cette Coupe d'Afrique.
Il n'y a pas d'excuse pour la reporter.
Laquelle ? Si l'Euro s'est joué alors que nous étions en pleine pandémie, avec des stades pleins, comme il n'y a pas eu d'incident et nous avons joué dans plusieurs villes en Europe, pourquoi la Coupe d'Afrique ne se jouerait pas au Cameroun ? Donne-moi une seule raison valable. Ou alors on est en train de nous dire que comment on nous a toujours traités, nous sommes les moins que rien, alors nous devons subir. Qu'on nous dise clairement les choses. Et je dis encore, ce qui est difficile dans cette façon de faire, c'est que certains Africains sont encore complices.
Malgré tout, certaines sélections s'activent en vue d'une bonne préparation. Le Ghana qui a dévoilé aujourd'hui sa liste élargie de 30 joueurs retenus pour participer à cette grande messe du foot africain. On peut noter la présence de Thomas Apaté, des frères Ayou, André et Jordan, Daniel Amate ou encore Moubarak Wakaso. Les principales têtes d'affiche sont bien là. La surprise, c'est Salis Abdoul, joueur de Clermont Ligue 1 française. Le milieu de terrain est convoqué pour la première fois par son pays. Les Black Stars affronteront au Cameroun, le Maroc, le Gabon et les Comores dans le groupe C. Et puis, direction Angleterre. Le Boxing Day est maintenu malgré l'explosion des cas de Covid alors que certains joueurs ou entraîneurs ont plaidé ces derniers jours pour un arrêt pendant cette période. Même si plusieurs matchs ont déjà été reportés à cause de nombreux cas positifs détectés chez les joueurs, les 19e, 20e et la 21e journée entre le 26 et le 3 janvier vont être maintenus, comme le rapporte des médias anglais. Cette décision a été prise à l'issue d'une réunion des 20 clubs de première ligue qui se sont mis d'accord pour maintenir les reports lorsque la situation sanitaire sera compliquée à gérer.
C'était les sports de Élisée Onkpatine.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manirakidza de retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. Le président de la Confédération africaine de football a déclaré que le tournoi de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN, va se dérouler comme prévu au Cameroun à partir du mois prochain. Cependant, les ouvriers qui travaillent au stade qui doit accueillir les matchs d'ouverture et la finale doutent qu'ils soient prêts. Le reportage de Moki et d'une Kinzeka depuis Yaoundé, le récit signé Mohamedou Onfa.
La Coupe d'Afrique des Nations de football devrait débuter le 9 janvier au stade Olembé de Yaoundé, la capitale. Lundi, le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, a visité le stade de 60 000 places qui est toujours en construction moins de 3 semaines avant le match d'ouverture. Motsepe affirme que le travail s'améliore et affiche son optimisme.
Il y a un engagement énorme et une concentration pour s'assurer que certains de ces problèmes qui sont mis en place dans les prochains jours, de bons progrès seront réalisés. Mon message est à l'Afrique et au monde que le peuple camerounais est prêt à montrer au monde le meilleur du football africain et aussi le meilleur de l'hospitalité africaine. Ce sera une CAN réussie. Alors, le 9 janvier, il doit y avoir le coup d'envoi.
Sa visite intervient alors que circulent des informations persistantes des médias locaux selon lesquelles le stade Olembé ne sera pas prêt. Des bulldozers ont creusé et aménagé des routes à l'entrée du stade ce mardi au lendemain de la visite du président de la CAF. Plusieurs dizaines de jeunes ont transporté et planté des arbres, des fleurs et du gazon qui, selon des responsables, vont embellir le stade. Luc Elundu, 35 ans, ingénieur en bâtiment, doute que l'ensemble du parking du stade sera terminé d'ici une semaine, comme l'a demandé le gouvernement camerounais.
Le mois dernier, nous étions environ 1000 personnes ici, mais maintenant, j'en vois jusqu'à 300. Les travailleurs ne viennent pas. Pourquoi? Ils travaillent sans argent. Certains empruntent de l'argent pour venir travailler, mais ils n'ont pas leur salaire. À ce rythme, même dans un an, nous ne pourrons pas finir le travail.
Jean Fradique est directeur technique du stade. Selon lui, 2000 travailleurs ont été recrutés pour s'assurer qu'avant la visite d'une mission de contrôle conjointe CAF-FIFA, le stade soit prêt pour le match d'ouverture.
On est en train de finir de mettre en place les derniers matériaux, une forte mobilisation de la part de Razel avec beaucoup d'engins pour placer les dernières couches de matériaux avant de mettre les enrobés. Quand on voit beaucoup d'engins, au lieu de penser pessimiste, il faut être optimiste en disant il y a beaucoup d'engins mobilisés, ça avance. C'est ça qu'il faut se mettre dans la tête. C'est pas parce qu'il y a beaucoup d'engins qu'il y a un problème. Au contraire, c'est qu'il y a une grosse concentration et que les travaux avancent en toute puissance. On aura aussi les autres collègues, tels que la FIFA, qui viendront aussi prendre possession des lieux, s'installer, placer tout ce qui sera placé pour la date de cérémonie du 9 janvier.
La construction du stade a commencé en mars 2017. Le gouvernement avait annoncé qu'il sera prêt pour la CAN 2020, mais en janvier 2020, la CAF a reporté le tournoi d'un an, affirmant que le Cameroun n'était pas prêt. La CAF a de nouveau reporté le tournoi en janvier 2021 en raison de la pandémie de COVID-19. D'après les médias camerounais, le tournoi pourrait être à nouveau décalé en raison du COVID-19 et des retards de construction. Mais pour l'instant, la CAF rassure que la fête du football africain aura bien lieu comme prévu.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Au Cameroun, les autorités affirment que l'armée a arrêté des centaines d'hommes armés accusés d'avoir pris part aux violences intercommunautaires dans le nord-est du pays. Ces attaques, engendrées par des ressources limitées, ont déplacé plus de 100 000 personnes, la plupart vers le Tchad voisin. Des centaines d'armes ont aussi été saisies et du bétail volé a été retrouvé de Yaoundé. Le reportage de Moki Edwin Kinzeka. Le récit est signé Jacques Aristide.
Les troupes camerounaises ont été déployées dans la région de Logone et Chari, le long de la frontière nord avec le Tchad. Une opération a été lancée pour traquer et arrêter d'autres hommes armés qui sévissent dans cette partie du Cameroun. D'après le gouverneur de la région de l'extrême nord, des raids militaires ont été effectués contre des cachettes, ce qui a conduit à l'arrestation de plusieurs centaines d'hommes armés. S'exprimant depuis Maroua, la capitale régionale, le gouverneur Midjiyawa Bakari indique que ces hommes sont soupçonnés d'être responsables de la majeure partie des attaques perpétrées ce mois-ci qui ont déplacé plus de 100 000 habitants, la plupart vers l'autre côté de la frontière avec le Tchad.
Nous avons eu beaucoup d'armes blanches, interpellées, plus d'une centaine. Une centaine de motos ont été récupérées. Plus de 200 bœufs volés ont été arrêtés au marché des bétails. Nous avons rencontré toutes les forces vives dans les deux communautés, Karanchua, Mousgoum. Et parallèlement, nous avons rencontré les déplacés internes. Ils sont arrivés à la résolution d'enterrer la hache de guerre et de repartir sur de nouvelles bases. Progressivement, les choses rentrent dans l'ordre.
Des affrontements ont éclaté le 4 décembre dernier entre éleveurs et pêcheurs au sujet des ressources en eau, faisant de nombreux morts et amenant des dizaines de milliers de personnes à abandonner leur village, pour la plupart des femmes et des enfants. Les éleveurs de bétail arabe Choua et les pêcheurs de l'ethnie Mousgoum s'accusent mutuellement d'intrusion et d'occupation des terres. Pour le gouverneur Bakari, la majorité des hommes restés dans les villages sont impliqués dans les combats. Il n'a pas donné de détails sur le nombre de personnes tuées, mais il affirme qu'aucun membre des troupes gouvernementales ne figure parmi les victimes. Le chef de l'État camerounais, Paul Biya, a dépêché la semaine dernière dans la région une délégation composée de parlementaires, de ministres, de chefs religieux et de chefs traditionnels afin de ramener la paix entre les communautés. Le colonel à la retraite, Hamad Kalkaba Malboum, faisait partie de la délégation. Il dit que dans les zones où les affrontements ont cessé, les autorités demandent aux villageois de rentrer chez eux.
Le président de la République du Cameroun a envoyé la délégation pour dire aux gens qu'ils doivent rester calmes. Le gouvernement donnera des instructions pour reconstruire ce qui a été détruit et nous devons aussi entamer le développement de cette région qui a également subi les atrocités de Boko Haram.
De nombreux villages et marchés ont été incendiés lors des violences communautaires qui ont eu lieu ce mois-ci. Les autorités camerounaises demandent aux personnes de la région qui possèdent des armes de les remettre. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés rapporte qu'au moins 85 000 Camerounais ont fui vers le Tchad voisin et 15 000 sont des déplacés internes. Mais le HCR ajoute que le nombre réel pourrait être beaucoup plus élevé.
C'est l'impasse en Libye à 3 jours de l'élection présidentielle prévue le 24 décembre. 17 candidats ont admis qu'un report du scrutin est de plus en plus probable, même si aucune annonce officielle en ce sens n'a été faite à ce stade. De nombreux responsables libyens notent l'absence d'une liste officielle de candidats et des désaccords persistants entre camps rivaux sur la base juridique du scrutin. Pour une analyse, Abdourahmane Dia a joint à Tripoli Jalel Hafshaoui de l'ONG Global Initiative basée à Genève.
Elle n'est pas possible à tenir pour cette date. La plupart des Libyens, y compris des élites, sont au courant de cette impossibilité depuis plusieurs semaines, donc un peu plus ancien que le moment d'aveu dont vous parlez. Et je ne dirais pas que c'est une impossibilité matérielle. Je dirais qu'il s'agit d'une impossibilité politique qui s'est traduite par plusieurs obstacles. Et les problèmes de sécurité physique, même s'ils existent, ne constituent pas le premier obstacle. Le premier obstacle, c'est-à-dire la manifestation de ces sabotages motivés politiquement.
Quand vous parlez de sabotage politique, vous pensez aux acteurs, à certains acteurs ?
Oui, il y a un certain conflit d'intérêts, si vous voulez. Par exemple, un des exemples les plus frappants, c'est le président du Parlement à Tobrouk, dans l'est libyen. Il a vraiment déformé la loi électorale de sorte à rendre les choses plus faciles pour sa candidature à lui et ainsi que celle de ses amis comme le maréchal Haftar. Donc il y a des distorsions, si vous voulez, qui se sont traduites de manière juridique, législative, à cause du fait que la plupart des élites en charge de fonctions très importantes aujourd'hui sont aussi intéressées à candidater.
On est à 3 jours de l'élection. Vous pensez que qu'elle est toujours tenable?
Non, je répète depuis plus de 2 mois qu'elle n'aura pas lieu, et elle n'aura pas lieu. Et je n'ai absolument aucun doute sur le fait qu'elle n'aura pas lieu en 2021.
Pourquoi la commission, la haute commission électorale n'a pas encore fait l'annonce d'un report éventuel?
Parce que il y a une crainte d'être sali par ce rôle qui consiste à être le premier à l'annoncer, à être la Cassandre chargée de délivrer les mauvaises nouvelles. Il y a une confusion dans l'esprit des gens. Il y a d'abord une pression de la part de certains États étrangers comme les États-Unis qui continuent de faire semblant que tout va bien. Le 24 décembre a été évoqué par l'ambassadeur américain il y a quelques jours, alors que tout le monde savait déjà que c'était impossible.
C'était Jalel Harshawi, joint dans la capitale libyenne. La pandémie de COVID-19 a eu des conséquences fâcheuses et imprévues. La ville de New York subit l'explosion d'une invasion de rats. Le reportage de Dina Vishneva. Le récit avec Ginny Kapumbu-Villa.
Ils sont partout, sur les échafaudages, dans les poubelles, dans le métro et dans les rues, comme nous explique Carole Morrison, une activiste.
1, 2, 3, 4 trous. Il y en a un cinquième là-bas. Si on regardait vraiment ici, vous en trouveriez encore plus.
Carole Morrison a déjà vu beaucoup de rats dans les rues de Brooklyn où elle habite, mais maintenant, c'est devenu une catastrophe, dit-elle.
Les sacs en plastique dans la rue, ces sacs en plastique ne sont qu'une invitation. C'est un nid de rats dans la rue.
Morrison, à Brooklyn, se bat contre les rats. Ce tas de papier contient les adresses des maisons où les normes d'assainissement sont ignorées. Certains propriétaires ont plus de 400, parfois même 500 infractions à leur dossier.
Il y a eu 60 visites d'extermination par le ministère de la Santé dans ce seul bâtiment. Il y en a eu 1 200 $ d'amendes qui ont été émises.
On dit souvent que la ville de New York compte 5 fois plus de rats que d'humains, alors que personne ne sait avec certitude combien de rongeurs vivent vraiment dans la Grande Pomme. Il est clair que le Covid a été une aubaine pour les rats de New York. Un exemple, ces terrasses de restaurants, il n'y a personne pour le moment, sauf des rats. De nos jours, une promenade nocturne peut souvent se transformer en une chasse aux rats à l'aide de chiens, comme nous explique cet exterminateur.
Ça ne va pas mal. Nous avons eu de meilleures nuits. Nous avons habituellement 40 rats et ce soir, nous en avons 26.
Chaque année, les autorités de New York investissent des millions de dollars dans des projets pour lutter contre le problème des rongeurs. Un programme de 32 millions de dollars vise à améliorer l'état des bâtiments de la ville dans certaines zones, y compris Brooklyn et certaines parties de Manhattan. Cela a aidé pendant un certain temps, les rats ont disparu, mais sont ensuite revenus, mettant en danger l'avenir du programme. Une autre initiative qui a coûté 5 millions de dollars aux autorités, la ville a introduit des sacs poubelles parfumés à la menthe.
La théorie était que les rats seraient repoussés. Eh bien, les rats n'ont pas été repoussés par la menthe et nous avons gaspillé 5 millions de dollars.
Le nouveau maire de New York, Eric Adams, a une histoire avec les rats. Alors qu'il était président du district de Brooklyn, il a introduit des pièges à rats intelligents. On ne sait pas s'il prévoit de faire de même dans d'autres parties de la ville en janvier lorsqu'il prendra ses fonctions. Mais pour l'instant, les chiens font le travail.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction et de la production qui a permis la réalisation de cette édition. Georges Léonard Sagno et José Le Morissin. Eric Manirakis a été à la présentation, ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, restez branchés sur voaafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Excellente soirée à vous.